IMO, le congrès immobilier FNAIM, les 4 et 5 décembre 2023 au Carrousel du Louvre à Paris, en partenariat avec Axéo et WeInvest sur Radio IMO.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio IMO en direct du Carrousel du Louvre pour IMO, le congrès FNAIM. Et j'ai le plaisir d'être avec deux invités, Olivier Principal, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes membre du bureau fédéral et également président de la FNAIM Grand Paris. Et Olivier Safar est avec nous également, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes le président de la chambre de l'Unicil de France et Grand Paris, invité par la FNAIM pour ce congrès.
Et je les en remercie.
Eh bien oui. Alors, on va parler de vos deux chambres, hein, évidemment, qui sont assez proches, il faut le dire, avec des combats communs. Un petit mot peut-être pour commencer, Olivier, sur ce salon.
Un congrès très dynamique, qui était très attendu dans cette période un peu compliquée pour beaucoup de professionnels. Et on voit ici beaucoup de confrères et consoeurs heureux de se retrouver dans un environnement pas facile, mais tout le monde a l'énergie, la dynamique, l'envie de faire bouger les choses. C'est souvent quand on est un peu contraint qu'on arrive à être meilleur. Donc, je trouve que c'est une bonne disposition et je suis très heureux de voir cet engouement à l'image de ce que nous a dit notre président fédéral tout à l'heure, Loïc Quentin. On est combatif.
Alors, un beau programme hein, pour ce congrès avec des ateliers, des conférences. Demain, le ministre du Logement est attendu.
Oui, demain matin. On l'attend, oui.
De pied ferme.
On l'attend parce qu'on a des exigences et on a l'impression d'avoir un marché qui est complètement, enfin à tout le moins un gouvernement qui est décorrélé de la réalité, conscient des problèmes mais pas avec des actions suffisamment rapides. Donc oui, on l'attend. On l'attend pour nous annoncer peut-être des choses qui vont dans le sens de l'histoire et pas dans celles qui vont à l'encontre de l'intérêt des Français.
Je rappelle qu'aujourd'hui a lieu la réunion au HCSF, hein, le Haut Conseil de la Stabilité Financière, oui, présidé par Bruno Le Maire. Et Bruno Le Maire a dit qu'il était vraiment pour relâchement des règles, hein, des fameuses règles d'octroi.
On a entendu favorable, on ne sait pas jusqu'où ça va aller.
Mais on est habitué au rétropédalage.
Alors voilà, la dernière fois, c'est qu'il nous avait prévenu qu'on allait dans le bon sens. C'était un mardi, le mercredi à 13h après le Conseil des ministres, retour en arrière dans l'autre sens. Donc aujourd'hui, nous, on attend de savoir ce qui va être fait, parce que je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, notre immobilier est coincé. Elle est coincée par les banques d'un côté, par l'absence de réponse du gouvernement pour refaire redémarrer, et par la rénovation énergétique de l'autre côté. Donc on a trois phénomènes qui viennent bloquer les choses. Si déjà on arrive à décorréler un peu les problèmes du crédit avec effectivement les autres problèmes, on va déjà faire avancer les choses. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Et on compte sur le gouvernement pour le comprendre et surtout pour mettre en place des solutions. On ne leur demande pas de mettre beaucoup d'argent sur la table, mais de comprendre les difficultés et de mettre en place des solutions qui vont nous permettre de débloquer les choses.
Des petits réglages pour faire un appel d'air. Alors justement, vous qui êtes des professionnels de l'immobilier, avant tout, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion, par exemple, du HCSF, concrètement? Quelles seraient les mesures à prendre, selon vous?
Moi, j'attends du pragmatisme pour libérer un marché qui est trop contraint.
Alors comment, concrètement?
Comment? Si déjà on pouvait limiter des augmentations des taux d'intérêt multipliés par 4,5 en une période d'un an, on n'arriverait pas à ce qu'on connaît aujourd'hui.
À ce stade-là, ils sont stabilisés les taux. Hein.
On attend.
Stabilisés,
mais... La dernière annonce de la BCE, c'était...
Il faut
c'était...
mobiliser les banques pour qu'elles lâchent du crédit, qu'elles lâchent de l'emprunt, que le marché de la transaction puisse avancer et que nos primo-accédants, nos clients qui ont besoin d'accéder à un logement... puissent y accéder facilement. Voilà, ça me semble essentiel pour libérer l'activité. Je vois qu'on a des fans sur ce plateau et je les remercie pour leur engouement.
Vous avez des vrais supporters.
Et pas n'importe lesquels. Hein, pas n'importe lesquels.
Et on a besoin d'un deuxième point, c'est que l'on facilite le crédit pour les copropriétés et pour les propriétaires bailleurs pour la partie rénovation énergétique.
Mais alors concrètement, quand vous dites faciliter, ce serait quoi concrètement?
Aujourd'hui, aucune banque, à part une seule, ne vient pour financer tous ces travaux de rénovation énergétique. On voudrait que toutes les banques de détail du marché viennent sur ces points. Le problème, c'est la garantie derrière, donc qu'ils n'ont pas. Parce que quand vous prêtez à un syndicat des copropriétaires, il n'y a pas de garantie. Quand vous prêtez à un propriétaire bailleur, vous n'allez pas mettre en place pour un crédit de 20 000 ou 25 000 ou 30 000 euros un privilège de prêteur de deniers ou une hypothèque, c'est trop cher.
Oui.
Donc conclusion, ce qu'il faut, c'est que derrière, on ait une banque de la rénovation énergétique qui vienne garantir tous les crédits qui seront faits par ces différentes banques de détail. Et ça, c'est le rôle de la Banque de France, de Bercy et du HCSF. C'est leur job. C'est à eux de le mettre en place.
Qui existe dans d'autres pays, hein, il me semble.
Alors, dans d'autres pays, ça existe déjà. En France, on a aujourd'hui qu'une seule banque, enfin, qu'une seule compagnie d'assurance qui assure les syndicats de copro. C'est trop peu. Et bien évidemment, les autres ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas venir prendre l'assurance chez un, on va dire, un banquier ennemi de leur part. et je le comprends, on a des concurrents, mais le but du jeu à un moment, c'est si on arrive à mettre en place cette banque de la rénovation énergétique qui va garantir les crédits des différentes banques, on va avancer. Aujourd'hui, on est coincé et à l'arrêt.
Je peux vous dire que le gouvernement a pris la mesure des alertes que nous donnons depuis un an sur la difficulté d'accès au crédit, notamment pour la rénovation énergétique. Je crois que le ministre voyait encore la semaine dernière les établissements bancaires, c'est la même chose cette semaine. On sait bien que la pierre angulaire de la réussite de la transition écologique et la rénovation énergétique, c'est le financement. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, on n'embarquera personne. Et je peux vous dire que les Français et les professionnels de l'immobilier sont favorables à cette transition écologique. Mais si on n'a pas les outils pour pouvoir réussir, il n'est pas question de mettre les Français dehors à compter du 1er janvier 2025. C'est bien de dire qu'on ne bougera pas le calendrier de la transition écologique, mais si c'est pour mettre tout le monde dans la rue, c'est pas la peine.
Et justement, alors vous parlez des aides, c'est vrai qu'il y a MaPrimeRénov', hein, voilà, et qui est
elle est augmentée.
Elle est augmentée.
Elle est facilitée.
On à partir du 1er janvier.
À partir du 1er janvier, voilà, on va augmenter les montants. On va arriver presque à 5 milliards, ce qui est très bien. On les félicite. Le crédit à taux zéro, l'éco-PTZ, il va être effectivement augmenté. On va arriver à 70 000 euros. C'est top. Mais le seul problème, c'est qu'effectivement, bah, il faut le distribuer. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une banque qui le distribue. Et ce n'est pas assez.
Et c'est peut-être aussi un peu fastidieux. Alors, vous qui êtes sur le terrain, au contact des particuliers, des professionnels, c'est vrai que c'est la première chose qui ressort. Hein, c'est assez complexe, justement. Personne ne comprend, en fait, on a l'impression.
Alors, ce n'est pas que je ne comprends pas. C'est qu'aujourd'hui, la digitalisation, elle n'est pas là sur ces crédits. Et si vous ne digitalisez pas pour un syndicat de copro où vous avez 300 copropriétaires qui veulent faire le crédit, vous allez vous retrouver à faire le montage du dossier à la main, c'est-à-dire à reprendre chaque dossier, chaque copropriétaire avec son document qu'il aura signé à la main et tout fait. Donc globalement, c'est tout reprendre deux fois, trois fois pour arriver à faire les choses. Et ça ne marche pas. Aujourd'hui, on est dans un process qui doit être simplifié, qui doit être en ligne pour les copropriétaires ou les propriétaires bailleurs, qui doit nous permettre effectivement, en rentrant toutes les informations, de dire OK ou pas, mais de savoir que ça peut faire et rapidement. Et pas attendre 6 mois ou 9 mois pour se dire après, ça marche pas, désolé.
Alors, Olivier Principal, vous avez donc invité Olivier Safar à ce congrès IMO. C'est vrai que vous avez des combats communs. Vous avez signé une charte récemment à la mairie de Paris.
Oui, tout à fait.
On parle de rénovation énergétique.
La rénovation énergétique, comme on le disait, est au cœur des enjeux et les professionnels s'engagent. La FNAIM et l'UNIS se sont engagés vis-à-vis de la mairie de Paris, la mairie qui elle-même a reconnu le rôle, la pierre angulaire qu'est la rénovation énergétique. Le rôle d'intermédiaire duquel on ne pourra pas se passer, qui est le syndic de copropriété. Et c'est assez marquant parce que dans l'histoire de la profession, c'est assez rare qu'on puisse enfin mettre en avant le rôle primordial du syndic de copro. Donc avec Olivier Safar, l'UNIS Grand Paris et la FNAIM Grand Paris étaient présents à la mairie de Paris pour signer cette charte avec Anne Hidalgo. Et donc c'est un bon démarrage. Alors, on a souvent des combats communs, d'ailleurs ils sont tout le temps communs.
Ils sont communs.
Et on a appris à travailler ensemble. L'UNIS Grand Paris et la FNAIM Grand Paris se parlent en permanence. Et on a plusieurs victoires hein, sur des combats judiciaires qu'on a menés ensemble et sur lesquels on communique désormais ensemble. On a structuré nos organisations pour travailler ensemble toute l'année 2024 et on espère pouvoir faire avancer et impulser dans nos organisations respectives un rapprochement
plus rapide que d'autres
et à la hauteur des attentes de nos adhérents.
Le message est passé. En tout cas, c'est vrai que vous avez été quasiment élu en même temps, hein,
oui,
président
à quelques
de vos
mois
chambres.
Près, absolument.
Vous avez le même prénom en plus, peut-être que ça aide aussi.
mais en tout ça cas, facilite, il n'y a pas de doute.
En tout cas, c'est vrai qu'on sent vraiment une alchimie hein, entre vous. On sent qu'il y a quelque chose et vraiment que vous allez dans la même direction. J'aimerais revenir sur la rénovation énergétique. Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est le grand chantier du moment avec MaPrimeRénov', on l'a dit. En revanche, le nombre d'entreprises labellisées RGE est en baisse de 6% cette année. Alors, et les entreprises labellisées RGE qui font de l'isolation sont en recul de 20%.
Plus de 20% au total.
Alors comment vous voyez la chose?
On en a parlé avec la FFB et la CAPEB, qui sont les deux syndicats, un de côté d'entreprise, l'autre côté des artisans, en leur demandant effectivement de favoriser cette partie RGE. Pourquoi? Parce que si vous faites des travaux et que l'entreprise n'est pas RGE, vous n'êtes pas éligible aux aides, aux subventions et aux primes. Et ça, c'est quand même un point important. Et la réglementation RGE a changé. Et certains qui devaient redéposer leur dossier pour faire un renouvellement, en réalité, ce n'était plus un renouvellement. C'était un nouveau dossier complet qu'ils devaient déposer. Et vu la complexité et l'information qui n'avait pas été transmise attention, ne l'ont pas fait. Dans les délais pour certains, certains se sont dit, ben, on est tranquille, c'est à faire dans le premier trimestre comme les anciens renouvellements. Pas du tout. Il fallait déposer les dossiers avant le 31 décembre obligatoirement. Ça n'a pas été fait. Et ben, derrière, ils ont perdu automatiquement la qualification RGE.
Moi, j'y vois la démonstration de l'incapacité des pouvoirs publics à embarquer tout l'écosystème dans la rénovation énergétique. Si on n'arrive pas à mobiliser les entreprises elles-mêmes dans le bâtiment sont le premier acteur de la réalisation de la réussite de ces travaux, ça démontre bien qu'on n'arrivera pas à embarquer tous les Français si on n'y met pas les outils, les préoccupations. C'est pour ça qu'on appelle, et on le fait ensemble avec l'UNIS Grand Paris, FNAIM Grand Paris, on appelle les pouvoirs publics à nous appeler pour co-construire la réglementation et les outils. Nous avons l'expertise du terrain, nous savons comment nos clients réagissent. Si on ne nous appelle pas avant de produire un texte, ça ne sert à rien. Là, on était très heureux de voir une nouvelle évolution dans la prochaine loi copropriété sur le financement des travaux de rénovation énergétique. Sauf que le texte a été rédigé par un banquier, il faut le dire. Et donc, du coup, c'est complètement inapplicable dans le monde de la copropriété. On ne veut pas devoir encore faire avec un texte qui est inapplicable sur le terrain. Et on demande au gouvernement, désormais, de nous appeler dès lors qu'ils ont un projet pour qu'on les aide à co-réaliser les textes, les dispositifs, afin de pouvoir les appliquer sur le terrain.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, la semaine dernière, l'Institut Sapiens a publié une note, justement, en pointant du doigt le DPE, qui a été réalisé sans étude d'impact en amont, enfin, qui a été voté, pardon, dans la loi Climat et Résilience. Et justement, l'Institut Sapiens a proposé au gouvernement de faire des études d'impact indépendantes, donc peut-être avec des professionnels de l'immobilier, par exemple, pour l'occurrence.
Ils nous ont interrogés.
Avant que les députés ne votent ces lois, est-ce que ce serait quelque chose de...
Alors, c'est un point important. Nous, on a souligné, effectivement, on a été interrogés par l'Institut Sapiens, et c'est logique. Eux, ils ont voulu effectivement prendre la température, comprendre les différents points, en ayant effectivement les différentes vues des problèmes. Ils se sont rendus compte que globalement, l'étude d'impact n'avait pas été faite, que l'étude d'impact, elle ne doit pas être faite en global, elle doit être faite en fonction du type d'appartement, du type d'immeuble, et du type effectivement d'occupant. Et ça, ça n'avait pas été fait du tout. Et on se rend compte aujourd'hui, et on l'a dit à plusieurs reprises, puisque je vous rappelle que le DPE, il a été déjà modifié deux fois par les textes, parce que notre gouvernement s'est rendu compte que le premier jet n'était pas bon, il a refait un deuxième jet, et là, il y a un troisième jet qui doit venir, pour modifier notamment le DPE pour les petites surfaces. Oui. Parce qu'ils se sont rendus compte que globalement, ça ne marchait pas. Ce n'est pas vrai. Ça a marché. Hein. On a fait un test avec un diagnostiqueur. On a pris deux appartements qui faisaient 20 mètres carrés chacun, sous les toits au dernier étage. Il y en a un, on avait fait les travaux et on pensait être très bien. L'autre, on avait fait les travaux, mais on avait enlevé le chauffage. Et on a eu une meilleure note pour l'appartement qui n'avait pas de chauffage que celui qui en avait un. Donc on s'est dit, mais c'est une histoire de fou.
Ça, je l'ai dit au ministre quand on y était la semaine dernière.
C'est vrai que les appartements qui se chauffent à l'électricité sont défavorisés par rapport aux appartements qui se chauffent au gaz.
Pas tous. Pas tous. Mais le problème, c'est que quand vous avez une petite taille, automatiquement, le calcul par rapport à la petite taille ne correspond pas. Pourquoi ? Parce que la méthode de calcul 3CL n'est pas du tout adaptée à ça. Et plus votre appartement est petit,
il faudra un coefficient de pondération.
Il faut modifier les règles pour ce type d'appartement. Et ça, c'est ce qu'on a demandé. C'était un projet qu'on avait demandé il y a déjà plus d'un an. Le projet de texte avait été écrit déjà au mois de mars dernier. Il n'a pas été validé du tout. Et pour l'instant, il est toujours dans les cartons. Alors, on nous a dit qu'il revenait normalement pour être publié avant la fin de l'année. On l'espère. Et on le demande déjà depuis plus d'un an.
Donc vous militez pour ça aussi ?
Non seulement on milite pour faire en sorte qu'on ait des outils qui soient praticables, et quand le terrain fait remonter des anomalies, il faut que ça soit rapide. On a des biens qui sont frappés d'une interdiction de mise en location parce que le moteur de calcul a été mal évalué. Donc à un moment donné, oui, ça me paraît évident de devoir tenir compte des réalités du terrain. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut réussir ce pari de la rénovation énergétique et de la transition, mais on peut le faire que si on embarque tous les acteurs, et nous qui sommes au contact de tous les propriétaires bailleurs, de tous les copropriétaires. Si on nous met de côté pour la mise en place de ces dispositifs, on n'y arrivera pas. Donc, vous pouvez compter sur la détermination de nos organisations professionnelles respectives sur le Grand Paris.
Absolument.
Et la détermination de la FNAIM pour faire avancer ces dossiers et faire en sorte qu'on soit entendus.
Donc là, vos plus grosses préoccupations pour 2024, c'est quoi ? Si on devait les classer
Que le gouvernement comprenne les difficultés et fasse ce qu'on va appeler un déblocage de la situation. Ça, c'est un premier point. On ne leur demande pas de mettre des milliards d'euros sur la table. On leur demande effectivement de faire avancer les dossiers et d'éviter les problèmes. Deuxième problème, c'est qu'effectivement, on ait une compréhension de nos métiers et de ce que nous faisons. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, on a affaire à des gens qui considèrent qu'on ne fait pas grand-chose, qu'on ne sert à rien ou qu'on est sur le côté. Ce n'est pas vrai. On est en contact avec les clients tous les jours, qu'ils soient copropriétaires, propriétaires, locataires, gardiens d'immeubles. On est là, on est avec eux tous les jours, on les entend, on comprend leurs difficultés et on les remonte, sauf qu'on n'est pas écouté.
Donc ça, c'est la priorité.
La priorité, c'est permettre à nos entreprises de pouvoir exercer leur métier en défendant leurs clients, de ne pas ubériser la profession. Et nous, ce qu'on attend, c'est de pouvoir avoir un marché qui se libère, qui se détend, parce qu'aujourd'hui, c'est tout le parcours résidentiel des Français qui est bloqué. Et on ne peut pas voir des locataires ne pas pouvoir se loger, des étudiants ne pas pouvoir réaliser leurs études, des personnes ne pas pouvoir avoir de mobilité sur le territoire national parce qu'il n'y a rien à louer, rien à vendre. Donc à un moment donné, si un État ne comprend pas sa difficulté ou persiste dans sa difficulté à ne pas loger les Français, il ne sera pas en paix avec lui-même, comme le dit souvent Loïc Quentin.
Et c'est très vaste ce que vous dites, c'est important de le préciser. C'est vrai que la crise du logement, hein, impacte le marché du travail. Hein. Là, ça y est, les études sont tombées. C'est le cas, c'est vraiment le cas. Donc voilà, affaire à suivre. Merci beaucoup, messieurs, Olivier Principal, Olivier Safar, pour cette interview. On se retrouve tout de suite sur Radio Immo.
Immo, le congrès immobilier FNAIM, les 4 et 5 décembre 2023 au Carrousel du Louvre à Paris, en partenariat avec Axéo et WeInvest sur Radio Immo.